J'aimerais lire trois textes d'introduction. Tout d'abord, un texte dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 6. Vous savez que le chapitre 6 et le chapitre 7 nous parlent d'un homme, Étienne. Étienne considéré comme le premier martyr de l'Église, qui fut choisi par l'Église pour faire partie des premiers diacres, des premiers serviteurs de l'Église. Et on ne va pas lire toute l'histoire d'Étienne, mais j'aimerais juste lire deux, trois versets. Donc, acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et on va s'arrêter ici pour l'exemple d'Étienne. Nous allons maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre et à partir du verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Et puis notre texte, notre dernier texte d'introduction, se situe dans le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, et nous lirons au chapitre 3 ce que l'Esprit dit à l'Église de Philadelphie, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ce message s'adresse, bien sûr, en premier lieu à l'église de Philadelphie, mais avec ce dernier verset, eh bien, on voit qu'il s'adresse aussi aux églises en général, puisque le verset 13 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai choisi ces trois textes pour parler ce matin d'un sujet que j'avais à cœur de vous parler sur la puissance de Dieu, la puissance selon Dieu, on pourrait dire plus exactement, avec deux exemples concrets, celui de cet homme de Dieu, Étienne, et puis celui de cette église de Philadelphie. Nous aspirons vraiment à une démonstration d'esprit et de puissance. Nous y aspirons et nous prions pour cela. L'apôtre Paul dira que sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous avons cet exemple concret avec cet homme de Dieu remarquable que fut Étienne, qui était sous l'onction du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit lui donnait une grâce particulière, une sagesse particulière, à tel point qu'il se faisait des miracles et des prodiges, eh bien, au travers de son ministère. Il nous a dit qu'une grande grâce, une puissance reposait sur lui, et que tous ces sacrificateurs, ces hommes religieux de l'époque, eh bien, ne pouvaient pas résister à la sagesse par laquelle il parlait. Le royaume de Dieu, dira encore l'apôtre Paul, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et comprenons bien les uns et les autres que depuis que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, nous sommes entrés dans un royaume de puissance. Nous sommes entrés dans un royaume de puissance, et cette puissance qui s'exerce dans ce royaume-là, c'est la puissance de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, et c'est cet évangile-là qu'il nous faut aujourd'hui annoncer, parce qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que nous le croyons ? Amen. Par la foi, nous l'avons chanté tout à l'heure, que Dieu soit béni. Alléluia. Dans ce texte de Corinthiens que nous avons vu, nous voyons qu'il est parlé de la sagesse de Dieu. On aurait pu aussi parler de la sagesse de Dieu, mais il est aussi question de la puissance de Dieu. Et les hommes, avec leur sagesse et avec leur puissance, n'arrivent pas non seulement à comprendre la sagesse et la puissance de Dieu, mais n'arrivent pas non plus à la hauteur et n'arrivent pas non plus à contrer cette puissance de Dieu qui est à l'œuvre et qui est à l'œuvre dans nos vies, que son nom soit glorifié. Cette église de Philadelphie avait peu de puissance, il est dit, peu de puissance selon le monde, peu de puissance humaine. Mais on voit, et je citerai tout à l'heure quelques exemples avec cette église, que la puissance de Dieu était à l'œuvre dans cette église pour la garder. Et nous sommes aussi conscients aujourd'hui que la puissance de Dieu est à l'œuvre au sein de cette église ici même. Cette église de Philadelphie était au bénéfice de la puissance de Dieu, et à tel point qu'il est dit que, eh bien, le Seigneur lui a ouvert des portes. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Même les hommes, même Satan avec sa puissance, ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte à cette église. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Au verset 9, On voit que le Seigneur a même donné de ceux qui se font partie de la synagogue de Satan se prosterner devant cette église. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Donc on voit bien que cette église qui a peu de puissance est au bénéfice de la puissance de Dieu, à tel point qu'elle est aussi gardée par la parole, elle est gardée au jour de la tentation, que Dieu soit béni. Nous aspirons donc et nous souhaitons, nous désirons et nous prions pour cela, que la puissance de Dieu soit manifestée au milieu de nous, car nous reconnaissons eh bien, que cette puissance de Dieu, sans cette puissance, eh bien, nous ne pouvons pas mener à bien la mission que Dieu nous a confiée. Et nous ne voulons pas nous tromper de puissance. Il existe bel et bien une puissance selon ce monde, une puissance selon la chair. Je préciserai par exemple qu'il y a une puissance financière. Ça existe. L'argent ouvre des portes. L'argent a une puissance. Mais ce n'est pas de cette puissance-là que nous parlons. Il y a la puissance du nombre aussi. On pourrait dire, mais si nous étions plus nombreux, on serait plus puissants. Il y a la puissance encore des influences et des relations. Mais tout cela, eh bien, n'est que illusoire et c'est la puissance selon ce monde, la puissance selon la chair. En tout cas, ces puissances-là ne produisent que de l'orgueil. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, et nous l'avons lu tout à l'heure dans le dernier verset aux Corinthiens, que « afin que personne ne se glorifie, que nulle chair ne se glorifie devant Dieu ». Et c'est pour cela qu'il a choisi les choses faibles de ce monde, les choses viles de ce monde, afin de confondre les choses fortes de ce monde, afin de les confondre et de faire éclater sa puissance, cette puissance, comme dit l'apôtre Paul, qui s'accomplit dans la faiblesse, que Dieu soit béni. Oui, il est vrai que les puissances selon le monde peuvent ouvrir des portes, mais ces portes-là sont trompeuses. Il est vrai que l'argent peut ouvrir des portes. Si on arrive avec une bonne liasse de billets quelque part, ça peut aider. Mais est-ce que c'est de cette puissance-là que nous avons besoin? Sachant qu'en fin de compte, si on compte sur cette puissance-là, nous ne mettons plus notre espoir, nous ne mettons plus notre confiance en Dieu, mais en Mammon. Et nous le savons que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et nous voulons nous en préserver. Quant à la puissance selon le monde, le fils de Saül, Jonathan, dira à son serviteur qui portait ses armes, ils étaient que deux face à l'armée des Philistins. Il dira, Dieu peut sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. Combien étaient-ils les premiers disciples? Pas très nombreux, hein. Mais on voit d'une manière fulgurante comment ils ont bouleversé à l'époque tout le bassin méditerranéen. Les nations ont été gagnées par l'Évangile, par des hommes et des femmes qui n'avaient pas ou peu de puissance. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous nous rappelons que nous sommes que des vases de terre et Dieu se plaît à se glorifier avec des vases de terre. Il fait reposer sa puissance dans ces vases de terre afin qu'elle soit manifestée au travers de notre faiblesse. Ceci étant dit, il m'a semblé important de préciser que non seulement il y existe une puissance selon le monde et selon la chair, mais que le diable a aussi une puissance. Il a aussi une puissance. L'apôtre Jean nous dira, dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et parce que le monde entier est sous la puissance du malin, il se passe toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, et ça va aller en s'accélérant, en s'accroissant, le monde entier est sous la puissance du malin. Essayons d'imaginer un monde, ce monde que nous connaissons, qui ne serait pas sous l'influence de la puissance du malin. Ça irait déjà beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ce temps-là viendra. C'est une époque que la parole de Dieu appelle le millénium, où pendant ce temps-là, pendant cette période de 1000 ans, le diable sera lié et ne pourra plus agir sur la terre. On connaîtra cette période-là. Mais en attendant ce jour-là, eh bien, le monde entier est sous la puissance du malin. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 9, les épîtres de Paul aux Thessaloniciens nous parlent aussi de ces temps de la fin. Et au chapitre 2 de cette deuxième épître, et on peut lire au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc on voit ici que l'apparition de l'impie, de cet homme du péché, comme il est dit au verset 3, ce fils de la perdition, elle se fera, cette apparition, par la puissance de Satan. Donc on voit ici vraiment que Satan a une puissance, pour ceux qui en douteraient encore. Et on peut lire ce texte en parallèle avec Apocalypse 13, où on retrouve la même pensée, Apocalypse 13 et au verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ouais. Donc on voit ici que le dragon, alors au chapitre 12, on ne va pas le lire là, mais au chapitre 12, on voit qui est ce dragon. C'est celui dont il est dit que c'est le serpent ancien, appelé encore le diable. Et on voit que ce dragon, c'est-à-dire le diable, va donner à cette bête, eh bien, sa puissance, son trône et une grande autorité. Je citais ce verset pour vraiment montrer que le diable a une puissance. Il a une puissance. C'est une réalité. Et nous le voyons à l'œuvre, malheureusement, aujourd'hui, non seulement le diable a une puissance, mais ses démons ont une certaine puissance aussi. Mais j'aimerais dire quand même que dans Luc 10, verset 19, il est écrit qu'il nous a donné, que Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Alléluia. On voit la puissance de l'ennemi qui est assez colossale, mais nous avons ce pouvoir, non pas par nous-mêmes, parce que nous sommes comme Étienne, nous sommes comme l'église de Philadelphie, qu'est-ce que nous sommes, mais il nous a donné ce pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, que Dieu soit béni. Parce que nous sommes passés, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes passés de la puissance de Satan à celle de Dieu. Nous sommes plus sous le contrôle de Satan, nous sommes plus sous sa puissance, mais nous sommes sous le contrôle de notre Seigneur, sous sa puissance à lui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Dans Romains chapitre 8, verset 38. Romains 8, verset 38. Notre Paul écrit ceci, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quel passage extraordinaire qui nous invite à placer vraiment toute notre confiance en Seigneur et qui nous remplit d'assurance. Parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en notre Seigneur Jésus. Ni les dominations, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il dit même, ni les puissances. Alléluia. Ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Que son nom soit glorifié. Il a la puissance de nous garder jusqu'à son retour. À lui seul soit toute la gloire. Il est important pour nous vraiment de, comme nous l'avons chanté, de marcher par la foi en plaçant notre confiance dans notre Seigneur, qui est celui qui agit avec puissance au milieu de nous et qui nous garde par sa puissance. Et nous voulons bien comprendre et croire en la puissance de Dieu. Le fait de ne pas comprendre, de ne pas croire à la puissance de Dieu, amène déjà à tordre le sens des Écritures. Et Jésus le dira aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. Ils étaient venus voir Jésus par rapport à ce sujet-là. Et parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures, ils tordaient le sens des Écritures. Et Jésus leur dira, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Par rapport à la résurrection, par exemple, ils voulaient trouver toutes sortes d'explications humaines, ne comprenant pas la puissance de Dieu. Comment comprendre un miracle? Humainement, ce n'est pas possible, puisque le miracle, par définition, j'allais dire, c'est quelque chose qui défie la logique, qui défie les lois naturelles. Expliquer humainement que quelqu'un puisse marcher sur les eaux. Si on ne croit pas en la puissance de Dieu, on va essayer de trouver toutes sortes d'explications qui ne tiennent pas debout. Voilà, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour la multiplication des pains. Donc on voit ici que ça dépasse toute logique humaine. Et nous voulons croire en la puissance de Dieu. Ne pas le croire en la puissance de Dieu nous amène à tordre le sens des Écritures et handicape notre foi. Oui, Dieu est celui qui ouvre des portes, comme il a ouvert des portes pour cette église de Philadelphie. Jésus dira à Pierre qu'il lui donnera les clés du royaume des cieux. Amen. Et effectivement, Pierre a été, bien sûr, conduit par le Saint-Esprit et sous la puissance du Saint-Esprit, l'initiateur, j'allais dire, du démarrage de l'évangélisation du peuple juif à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient réunis et que au bruit qu'il y a eu, eh bien la foule qui était présente, parce qu'ils étaient nombreux à ce moment-là à Jérusalem, parce que c'était la fête de Pentecôte qui était avant tout une fête juive. Donc il y avait beaucoup de monde qui était là et ils sont venus attirés par le bruit. Et voilà, ils se mirent à parler en d'autres langues et certains comprenaient ces langues-là. Et d'autres disaient, mais non, ils sont pleins de vin doux. Et l'apôtre Pierre a, à ce moment-là, pris la parole et leur a parlé de la part du Seigneur. Donc ça a été le début de l'évangélisation. Et puis, dans Actes 10, on voit que Pierre aussi a initié l'évangélisation des non-juifs, puisqu'il est allé chez Corneille. Là aussi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire chez Corneille. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient réunis dans ce lieu. Et là encore, eh bien, rempli du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue et à glorifier le Seigneur. Alors, ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pierre n'aurait jamais baptisé Corneille et sa maison, hein. Sinon, hein. Il n'aurait jamais baptisé. Mais puisqu'ils avaient reçu le même esprit, le Saint-Esprit, eh bien, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu comme nous? Voilà. Donc on voit, et à partir de là, donc, il y a eu cette possibilité d'évangéliser les non-juifs, les païens, et bien sûr, celui qui va accentuer, j'allais dire, cette évangélisation sera l'apôtre Pierre. Donc, et les portes se sont ouvertes à ce moment-là. Des portes se sont ouvertes. Pour l'église de Philadelphie, le Seigneur a mis dans cette église, devant cette église, une porte ouverte. Et nous voulons prier le Seigneur parce que il y a des situations qui sont bloquées, il y a des régions qui sont fermées, il y a des cœurs qui sont fermés. Et nous voulons prier le Seigneur pour que des portes s'ouvrent. Il est grand pour le faire. Il est grand pour le faire. Et nous ne voulons pas compter sur notre savoir-faire pour cela. Nous ne voulons pas placer notre confiance dans une puissance financière pour cela. Nous ne voulons pas placer notre confiance sur le nombre. Nous ne voulons pas placer notre confiance sur des influences humaines ou des relations qui, en fin de compte, ne seraient que des manipulations, mais nous voulons nous confier dans le Seigneur qui est grand pour ouvrir des portes, que son nom soit glorifié. Non seulement le Seigneur a ouvert des portes, mais ses ennemis à cette église de Philadelphie, il va les faire se prosterner devant elle. C'est remarquable, ça. Bien sûr, on ne souhaite pas que nos ennemis se prosternent devant nous. C'est pas ça que nous recherchons. Mais ce que nous recherchons, bien sûr, c'est que la puissance de Dieu s'accomplisse aussi dans la vie de nos ennemis. De ceux qui, aujourd'hui, s'opposent à l'Évangile, nous voulons croire, tout comme l'apôtre Paul s'est converti, eh bien, nous voulons croire qu'ils vont aussi se donner au Seigneur et se soumettre à lui, que son nom soit glorifié. Et puis, on voit aussi que cette église de Philadelphie, qui avait peu de puissance, va être gardée au jour de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça aussi, c'est une puissance. Pouvoir résister à la tentation. Et ça va être une tentation terrible, cette tentation qui va venir sur le monde entier. Ça va être terrible. Et avec quoi pouvons-nous résister? L'argent ne pourra rien faire. La puissance financière ne pourra rien contre cette tentation qui va venir sur le monde entier. Tous nos recours humains ne pourront rien. Seule la puissance de Dieu pourra nous garder. Et même déjà aujourd'hui, le péché nous enveloppe si facilement. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas résister. Si un jour nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière par la puissance de Dieu, comprenons bien que nous avons encore aujourd'hui besoin de cette puissance de Dieu pour résister à l'attrait du péché. Pour résister à toutes les tentations, à toutes les épreuves, pour rester ferme face à toutes les difficultés, face à toutes les oppressions, face, voire aussi, aux persécutions qui pourraient venir. Le Seigneur est celui qui veut garder son peuple et nous savons qu'il a la puissance de nous garder, que son nom soit glorifié. Oui, nous prions et nous aspirons après cela, après une démonstration d'esprit et de puissance qui n'a rien à voir avec une excitation humaine. Est-ce que Étienne était excité? Est-ce qu'il gesticulait dans tous les sens? Non, il était même très calme. Très calme. Et il a vu, en vision, cette gloire du Seigneur avec le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais lire un texte, et ça sera notre texte de conclusion, dans le deuxième livre des Rois. Deuxième livre des Rois. Au chapitre 6 et au verset 1er, les fils des prophètes, alors l'expression fils des prophètes dans l'Ancien Testament, c'était des apprentis prophètes, des élèves prophètes. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit « Allez. » Et l'un d'eux dit « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit « Enlève-le !» Il avança la main et le prit. Amen. Alors pourquoi ce texte en conclusion ? Ici, ces fils de prophètes ont voulu agrandir le lieu où ils étaient, qui était devenu trop étroit pour eux. Et nous sommes aussi les uns les autres appelés avec Christ à bâtir sa maison. Il nous a rendus les uns les autres participants à cet ouvrage. Et pour cela, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Et ici, pour construire, il n'y avait pas les tronçonneuses à l'époque, ils ont pris leur arche, chacun d'entre eux. Et l'un d'eux, donc, en coupant le bois, la cognée de l'arche, c'est séparé du manche, et elle est tombée dans l'eau. Encore heureux qu'elle est tombée dans l'eau et pas atterri sur quelqu'un. Mais si une hache est efficace avec sa cognée, on voit bien que seulement avec le manche, il ne pourra rien faire. Il aura beau taper sur l'arbre, il n'a pas tombé. Hein. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus aucune efficacité. Et parfois, il arrive des événements dans notre vie qui font que les choses ont bien fonctionné à un moment donné. On marchait sous la puissance de Dieu, on servait sous la puissance de Dieu. Que s'est-il passé ? Bon, des événements qui nous concernent les uns et les autres et on se retrouve là avec le manche de hache, mais sans la cognée, il n'y a plus d'efficacité qui soit là dans tout ce qu'on fait. On cogne, mais il n'y a rien qui arrive. Et on a beau redoubler d'efforts, se fatiguer, à cogner, il n'y a rien, l'arbre ne va pas tomber. Et nous avons besoin peut-être de retrouver la puissance de Dieu. Alors, le prophète Élisée va dire « Où est-il tombé ? » Puissions-nous reconnaître où nous avons fait défaut ? Puissions-nous reconnaître ce qui n'a pas été ? Pour cela, bien sûr, parfois on est ignorant. Et on a besoin de se placer devant Dieu pour savoir où les choses se sont mal passées, où on a fait défaut. Alors, cet homme va dire, ce fils de prophète va dire, voilà, il est tombé là. Alors, Élisée va prendre un morceau de bois, le jeter à la même place. C'est un miracle, bien sûr, on a bien compris. Et il va faire surnager le fer de hache. Le bois en question, qui va faire revenir la puissance de Dieu, ce ne peut être que la croix. Ce ne peut être que la croix. Il nous faut revenir à la croix. Nous sommes passés de la mort à la vie par la puissance de Dieu grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il est monté sur la croix, il a vaincu la mort, que son nom soit glorifié. Et dans la mesure où nous revenons à la croix, dans la mesure où nous plaçons tout à nouveau notre confiance en Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés, et on comprend pourquoi l'apôtre Paul dira qu'ils n'ont pas su autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans la mesure où vraiment nous plaçons notre foi en Jésus qui a été crucifié pour nos péchés, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, alléluia, alors la puissance de Dieu peut à nouveau s'accomplir dans notre faiblesse. mais ne passions pas notre confiance en nous-mêmes. Nous voulons la placer vraiment dans le Seigneur. Et c'est à ce moment-là seulement. Et mes frères et sœurs, il est vrai que nous vivons des temps exceptionnels. Nous vivons des temps difficiles. Et les choses se compliquent, nous le voyons bien. Mais nous voulons placer toute notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est grand pour faire surnager le fer, et on va pouvoir remettre la cognée de la hache dans le manche. On va pouvoir ainsi retrouver notre instrument. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur de ce qu'il fait au milieu de nous. Et nous voulons, dans la prière, dans l'intercession, réclamer toute l'aide du Saint-Esprit, toute l'assistance du Saint-Esprit, afin que sa puissance s'accomplisse dans notre faiblesse, que son nom soit glorifié. Amen. On va prier ensemble, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aspirons à ce que tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur, après cette démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, qui ne fait jamais défaut. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons placé notre confiance en nous-mêmes, où nous avons placé notre confiance dans les puissances selon ce monde. Mais nous voulons, Seigneur, placer notre confiance en toi, le Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Au milieu de nous, tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu vas faire, nous voulons avancer en comptant sur tes promesses. Nous voulons avancer en comptant sur ta puissance qui est active encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, à toi soit toute la gloire pour ce que tu vas encore faire. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, manifeste-toi au milieu de nous. Équipe-nous par ces dons de l'Esprit, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de nous. Nous voulons voir des âmes passer des ténèbres à ton admirable lumière. Nous voulons voir, Seigneur, ces malades et qui sont éprouvés à cause de leur maladie, qui sont fatigués à cause de leur maladie, qui soient guéris. Ô Seigneur, manifeste-toi avec puissance au milieu de nous, Seigneur. Qu'il y ait des hommes de Dieu, des femmes de Dieu comme Étienne, qui soient remplis de cette grâce et de cette puissance de Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Amen.